ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Lorsque la boule tango scintille,
vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand et avec l'aide à la technique de Flo Descailloux, que je salue bien et qui va nous accompagner pour cette émission, une émission passionnante, en compagnie de Claude Arnaud et d'un livre que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est Picasso tout contre Cocteau, ça vient de paraître aux éditions Grasset. Claude Arnaud, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai qu'on s'était vu lors de deux précédents livres, je crois qu'il y en avait un sur la Corse, et peut-être un autre
qui s'appelait Juste un corps, où j'ai essayé de raconter ce que c'est que ce que vit un corps qui écrit des livres.
Et j'avais lu, pour ma part aussi, votre Proust contre Cocteau.
Contre Cocteau, alors, que j'avais sorti il y a 10 ans, une dizaine d'années.
Ouais. Alors justement, je me suis posé la question, parce qu'à chaque fois je me dis pourquoi un titre, hein, pourquoi un titre nous interpelle ou nous interpelle peut-être pas. Picasso tout contre Cocteau fait la suite un peu de Proust
contre Cocteau. Cocteau.
Alors explique-moi pourquoi avoir choisi faire une sorte de continuité comme ça, Claude Arnaud, entre ces deux titres.
Alors parce qu'en fait, c'est comme des petites corvettes autour de ce que je pourrais appeler, c'est peut-être un peu pompeux, mais le navire amiral, qui était une grosse biographie de Cocteau que j'ai publiée en 2003, il y a 20 ans maintenant tout juste, chez Gallimard, qui était un peu un monstre de près de 1000 pages, où j'avais essayé de de reconstituer la vie de Cocteau, qui est une vie en fait assez puissamment romanesque, qui est pas du tout la vie d'un homme de lettres ordinaire, et qui donc avait, enfin, il y a une telle multiplicité d'aventures, de rencontres, de mariages. Alors on va peut-être creuser ce thème du mariage dans la vie de Cocteau, que évidemment, même en 1000 pages, j'avais conscience d'avoir coupé énormément de pistes assez intéressantes et parfois même passionnantes. Et dans ces, je dirais, deux amputations que j'avais fait sciemment, il y avait clairement la relation avec Proust, qui est fondamentale pour l'histoire de la littérature, parce que sur toute cette question de est-ce que l'auteur, le narrateur d'un roman est son auteur, et tout ce distinguo que Proust nous a appris à faire entre l'auteur et le narrateur. Mmh. Et donc sur toute cette question-là, qui était le thème central du livre, évidemment, il y avait l'histoire de la relation extrêmement forte, affective, entre Proust et Cocteau. C'était d'ailleurs Proust le demandeur, puisqu'il était l'aîné, mais un aîné qui n'avait pas du tout encore... c'était pas épanoui littérairement, alors que Cocteau était extrêmement précoce, dès l'âge de 18-19 ans. Et je dirais la relation avec Picasso, qui est peut-être aussi l'autre relation un peu centrale dans la vie de Cocteau, qui, elle, alors, est dure 50 ans, donc couvre vraiment un demi-siècle et toute l'histoire de la modernité en art, en tout cas à Paris, mais aussi est pleine et riche d'enjeux autour de la création. Peut-être qu'on pourra en parler un petit peu plus tard, autour de la création, de l'admiration, de l'imitation, du vol, du pillage, de la prédation, de la rivalité et de la haine. Donc toutes les couleurs d'une relation qui peut unir deux créateurs. L'un, évidemment, Picasso, qu'on présente plus, qui est légèrement l'aîné de 8 ans de Cocteau, et l'autre qui est un écrivain, mais un écrivain très doué d'un point de vue graphique, et qui cherche, d'une certaine façon, pas tant à imiter Picasso qu'à essayer de comprendre ce qui le rend si productif et si, je dirais, si peu conservateur, si constamment en quête d'autre chose.
C'est la création permanente, Picasso.
Voilà, c'est une sorte de...
Et Cocteau aussi. Et
c'est pas la révolution permanente de Trotsky, c'est la création permanente, ouais, de Picasso. Ouais. Et cette machine à créer, à se recréer, à s'inventer, à se détruire, à détruire, à reproduire, à recommencer, inlassable, épuisante, je trouve à la fin déprimante, d'une façon, dans la créativité de Picasso, a tenu pendant 50 ans Cocteau en haleine, lui-même étant, comme vous le savez, quelqu'un d'extrêmement prolifique, d'extrêmement abondant, et dans plusieurs arts aussi. Alors, de la poésie à la même la peinture, la tapisserie, les décors, les costumes. Donc, tous les deux ont une palette d'intervention extrêmement riche. Donc les interférences sont fortes et je pense vraiment intéressantes.
Alors ces deux univers, on pourrait dire aussi que Cocteau, jeu est un autre. Il a toujours besoin, là j'allais vous parler des gestes miroirs, ça c'est au sujet, c'est une expression à la Cocteau, au sujet justement de l'enfance de Picasso, mais il y a cet effet miroir permanent dans la vie de Cocteau.
Oui.
Le négatif, le positif, la mort, la vie, il traverse ses apparences toujours, et il est toujours face à un miroir et il a toujours un autre face à ce...
Oui.
C'est très important pour Cocteau de se construire ainsi.
Voilà, Cocteau est un être fait pour le miroir, je dirais, qui s'interroge, qui doute, qui veut s'atteindre, qui se cherche, qui lui-même se... Alors là-dessus, il a un point commun avec Picasso, se remet en cause, se réengendre, se conteste, et son propre anarchiste, ça on peut le dire, sans faire de démagogie artistique, c'est vraiment vrai. Il détruit toujours quelque chose de son moi ancien pour arriver à une nouvelle créativité. Ça, il a ça très fort, et effectivement, Picasso est l'image qu'il aimerait voir dans le miroir à un certain moment de sa vie, quand il se regarde dans le miroir.
Enfin, et tous les deux, c'est un jeu.
Picasso se regarde aussi, mais je dirais de façon plus clairement prédatrice, c'est-à-dire il se regarde dans le miroir de Cocteau, il admire Cocteau pour son intelligence très véloce, sa capacité à formuler très très vite des choses que lui aurait plutôt tendance à taire, comme il dit, je ne suis pas mot, je suis couleur, je suis forme. C'est pas quelqu'un qui bavarde, Picasso, c'est pas quelqu'un qui se commande, s'analyse, c'est laconique, c'est dur, je pense qu'on va en parler, mais il a en face de lui, le français n'est pas sa langue natale de Picasso du tout, et il ne le parlera jamais très parfaitement, même s'il écrira par ailleurs il sera capable de s'exprimer en français, mais je veux dire donc la vélocité, le brio, l'intelligence paradoxale de Cocteau le fascine, et en même temps Bah, il y a ça à prendre parce qu'il se dit, tiens, ça va être un bon critique pour mon œuvre. Il va bien accompagner mon œuvre après la mort de Max Jacob et la disparition de Max Jacob et la mort d'Apollinaire. Cocteau va devenir donc ce que Cocteau, que Picasso appelait son poète lauréat, c'est-à-dire le critique chargé de commenter son œuvre. Donc, c'est un miroir dans le cas de Picasso qui est assez utilitaire.
Oui, bah, bien sûr, c'est comme le rétroviseur. Vous savez, quand on conduit, on a besoin de.
Voilà, exactement.
On a besoin de savoir. Alors, vous revenez d'ailleurs au sujet de leur. Tous les deux ont perdu leur père quand ils étaient. Ils n'ont pas perdu leur père, mais c'est la relation père qui est très intéressante. Du côté de Picasso, vous montrez comment le père a été à la fois justement un miroir et en même temps, Picasso, c'était aussi un repoussoir. C'est-à-dire que Picasso s'est construit à l'inverse de son père. Cocteau, son père, s'est suicidé. Donc ça, il aura toujours la culpabilité, je crois, de cette mort avec lui. Mm-hmm. Vous dites au sujet de Picasso, l'enfant intériorise ce modèle inespéré à travers des gestes miroirs et progresse si vite que son père lui confie le soin d'achever celle de ses toiles que le déclin de sa vue l'empêche de parfaire. Moi, je ne savais pas que le père de Picasso avait des problèmes de vue, voyez.
Il avait. Et c'était un bon peintre. Hein. On a vu un tableau de lui au musée Picasso l'année dernière qui m'avait frappé. C'est pas un peintre médiocre, c'est simplement un peintre qui n'a pas une grande ambition, qui est professeur dans des écoles d'art, qui est conservateur du musée de Malaga, donc qui est institutionnel, disons, voilà, mais qui n'a pas un sens de lui-même surdéveloppé, et donc qui apprend très vite au petit Pablo à l'imiter, à faire comme lui, à peindre des colombes qui vont devenir assez vite des pigeons, puis après redevenir des colombes à l'époque du Parti communiste. Et il y a une espèce de passation de pouvoir assez évidente entre l'homme pas très ambitieux, assez talentueux et qui perd la vue, et ce gamin précoce avec une étrange aptitude mimétique à absorber les maîtres qu'il voit dans les grands musées espagnols très, très vite, depuis Malaga jusqu'à Madrid, et qui assez vite est capable de reproduire des Velázquez, des Murillo, des Goya, des Greco, donc des peintres quand même de très très haute stature, et qui donc s'égalise virtuellement comme un enfant peut le faire, un enfant de 10, 12, 13, 14, 15 ans, quand il arrive à faire comme des maîtres. Et effectivement, Picasso a montré assez vite ce talent-là.
On peut dire d'ailleurs qu'il est né adulte. Vous dites, Cocteau mettra comme Picasso longtemps à être jeune, artistiquement parlant. Donc,
c'est
vrai
qu'ils ont
tous les deux là une sorte de don naturel.
Voilà, et de don naturel, mais qui s'exerce à une époque, je dirais, à la fin du symbolisme, à la fin du 19e siècle, où la peinture est quand même, ce qui domine, c'est encore la peinture académique. Alors Cocteau, c'est déjà de la poésie parnassienne, symboliste, c'est déjà plus subtil, mais le modèle dont hérite Picasso en peinture, c'est de la peinture narrative, des enterrements, des mariages, des baptêmes, des scènes religieuses à l'espagnol. C'est quand même... Mais heureusement, il a accès par les musées auxquels le mène son père à des peintres beaucoup plus intéressants que tout ça. Mais disons que la production dans laquelle il baigne au départ, elle est extrêmement conservatrice. Donc, je dirais même, à la limite, Picasso a une formation plus conservatrice que Cocteau n'en a eu en poésie. Ouais. Mais il va comprendre d'abord en allant à Barcelone, qui reste la ville la plus moderne en Espagne, et dans tout ce monde de Barcelone, des rapins, des étudiants en art, beaucoup étaient d'ailleurs anarchistes, il va comprendre vite qu'il y a autre chose que cette peinture académique, et l'étape d'après, ce sera Paris, où là, il va commencer vraiment à remettre en cause cet héritage. Cocteau, mais tous les deux, en tout cas, ont vu les faiblesses de leur père. Le père de Cocteau est un bourgeois qui s'est arrêté de travailler parce qu'il avait assez d'argent pour arrêter et qui s'est mis à la peinture. Alors, c'est plutôt à l'aquarelle, au dessin, un peu en dilettante, mais c'est un peu plus qu'un peintre du dimanche. Il fait ça tous les jours. Et le petit Cocteau a appris, alors lui, de façon beaucoup plus modeste, non pas en voyant les grands maîtres, mais en voyant son père. Mais quand même, cet apprentissage, il est fondamental, on le sait tous. Le fait d'avoir un modèle autour de soi, c'est un privilège assez extraordinaire. Ne pas être intimidé finalement par le seul fait de vouloir dessiner ou vouloir peindre quelque chose, cet accès symbolique est en fait un gap gigantesque quand on n'est pas dans une famille pour qui ces choses-là sont accessible, je dirais.
Ouais. Alors voilà, vous écrivez, Don Rosé avait donc bien mieux qu'un modèle, le repoussoir avait donc été bien mieux qu'un modèle, le repoussoir idéal, il aura figuré l'homme que son fils ne voulait à aucun prix devenir. Voilà. Vous dites aussi, par exemple, ce père dilettante le marque toutefois en creux. Donc il y a une forme de... Et il y a une belle relation entre Picasso et son père.
Parce oui, c'est intéressant.
Il y a un respect mutuel.
Il y a un respect, oui, il y a un respect. Picasso l'a aidé après, quand à Paris, il commençait à un peu à exister. Le père l'a d'abord beaucoup aidé, lui a donné ses pinceaux. Bon, il y a un petit peu de roman autour de cette passation de pouvoir. Mais enfin, certainement, c'est un homme qui perdait la vue. Donc, il y a un moment où il s'est plus senti à la hauteur. Picasso l'a... Mais effectivement, c'est aussi un repoussoir, parce que Picasso a compris très vite que rester un peintre assez doué, mais sans être mu par une ambition de vouloir être beaucoup plus qu'un peu doué, de vouloir être non seulement l'égal de Goya, de Velázquez, de Murillo, tous ces grands peintres, mais de faire mieux qu'eux. Car c'est ça que ça lui a donné. Et ça, c'est unique, parce que c'est pas de l'ambition sociale médiocre, ou c'est pas de l'arrivisme. C'est une ambition très haute et d'une certaine façon épuisante et exténuante. Et je pense que c'est ce qui a aussi exténué Picasso. Et c'est ce qui a fait de lui une sorte de monstre. Après, on reviendra peut-être sur ce mot et sur cette façon, les précautions qu'il faut prendre avant de l'employer.
Oui, parce qu'on dit beaucoup de choses
à un moment sur Picasso. Non, mais il y a quelque chose d'un peu phénoménal et monstrueux chez Picasso.
C'est une nature.
C'est une force, mais c'est aussi une volonté, une ambition exceptionnelle qui est un peu hors norme et qui fait qu'il a ce désir de les surpasser tous et d'être le point, peut-être pas final, mais en tout cas, le point dominant de l'histoire de la peinture occidentale. Et ça, c'est quelque chose d'effarant, de fantastique. Ça lui a donné aussi cette force à la fois à tout apprendre, puis après à tout casser.
Faut dire que son père était un notable un peu, je crois qu'il était directeur d'école des Beaux-Arts.
École des Beaux-Arts, directeur du musée de Malaga.
Voilà.
Enseignant, il a formé beaucoup de... Un notable de la peinture académique.
Voilà. Ouais. Alors que le fils, son ambition, c'est pas du tout ça. Non. Vous écrivez, mais sa vue déclinant de façon inexorable, ce père honorablement doué cesse d'être le professeur de Pablo pour se faire son entraîneur personnel et transfère sur lui ses ambitions frustrées. Il ne servira plus de modèle qu'au sens passif du terme. Oui. Donc, mais c'est, ça se passe, je veux dire, c'est un relais qui se fait naturellement. Il y a la mort de la sœur de Picasso, qui, première confrontation avec la mort, ça va le marquer à tout jamais. Et pour Cocteau, la mort, ça sera pour son père, ce qui s'appelle Georges Cocteau, je pense, le père.
Ça s'appelle Georges Cocteau, absolument. Et donc, le petit Cocteau, après avoir, comme lui, appris à dessiner, à faire des aquarelles de des membres de leur famille, de leur entourage, des musiciens qui venaient jouer des petits concerts chez eux, ben, un jour, entend un bruit sourd, alors ils sont dans leur maison près de Paris, à Maison Lafitte, et c'est le père qui s'est tiré une balle dans la tête, s'est suicidé dans le lit matrimonial. Donc là, il y a une transition qui est beaucoup plus violente, beaucoup plus brutale, mais qui arrive un petit peu à des effets, je dirais, en partie parallèles, c'est-à-dire Cocteau comprend que il faut pas être fragile pour faire ces choses-là, et qu'il faut aller au bout. Et là, je dirais que Cocteau aussi se propose à faire ce que son père n'a pas su faire jusqu'au bout, c'est-à-dire devenir un dessinateur et un poète, ce que le père ne prétendait pas être, d'ailleurs, qui travaille vraiment, pas un amateur. Je dirais que dans les deux cas, c'est le spectre de l'amateurisme que le déclin ou la mort du père conjure, c'est-à-dire ne pas être un amateur. Si vous faites ça,
faut y aller.
C'est ce que je pense personnellement, par ailleurs, allez-y. Mais ne faites pas ça, ou faites ça, ou alors faites ça parce que le dimanche c'est plus agréable de faire une aquarelle que de regarder l'abrutissante télé, mais c'est un plaisir personnel et ça doit le rester. Mais si vous avez l'impression que vous êtes porteur de quelque chose, d'une forme, d'un thème, d'une musique, d'un petit quelque chose, alors allez-y, travaillez.
C'est ce qu'on appelle le feu sacré.
Ça se développe.
Ça se développe. Et tous deux sont porteurs de ce feu sacré, Cocteau et Picasso. Alors au sujet de Cocteau, il se sentira, dites-vous, toute sa vie responsable de la disparition de son père, par contre-coup, comme s'il se reprochait à demi-mot d'avoir expulsé Georges Cocteau de sa généalogie pour mieux lui voler sa vie sociale. Et vous ajoutez par la suite, À l'inverse de Picasso, qui tire sa force d'un parricide commis en toute lucidité et associe son essor personnel au meurtre symbolique de Don José. Donc, mais bon, tous les deux, voilà, ils partent dans la vie avec son deux natures, hein, nature assez feu follet pour Cocteau.
Feu follet pour Cocteau.
Et le volcan, peut-être pour Picasso. Enfin, oui, quelque chose de beaucoup plus tellurique.
Oui, organique. Oui, on a dit taureau, on peut dire volcan. C'est ramassé chez Cocteau, chez Picasso. La force est assez ramassée, même si l'ambition est énorme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ambition est encore plus énorme que celle de Cocteau. Mais la force corporelle est ramassée, elle est assez mutique, elle est assez brutale, assez tôt.
Assez tôt. Leur point commun, alors, c'est-à-dire, c'est cette sorte de devenir dans le temps, c'est-à-dire, bon, s'approprier les lieux, ça, tous les deux savent s'approprier les lieux. Il montrera la même insistance, dites-vous, au sujet de Cocteau, que Picasso a signé ses dessins, dédicacé ses livres ou tatoué les murs qui l'hébergent 60 ans durant. Tous les deux marquent
le territoire.
Le territoire. Ouais.
Avec quelque chose d'animal.
Ouais.
Picasso peint les murs des chambres des gens qui l'hébergent. Quand il épouse Olga, ils y sont reçus par une très riche chilienne aux Pays-Bas, madame Irazouriz. Il peint la chambre, il y passe 3 jours, mais il a le temps de la peindre. Cocteau, il fait un peu la même chose à la Villa Santo Sospir après la guerre. Il y a cette espèce de, oui, cette besoin de marquer son territoire, un besoin presque animal de marquer son temps après, assez vite au-delà du territoire.
Oui, et puis il y a un rapport aux objets aussi, on va en parler par la suite. Mmh. Il y a pour les objets, il y a un goût pour le faire. Pour le faire.
C'est des gens du faire, c'est des artisans très supérieurs. Mmh. Il y a quand même un amour de l'artisanat, mais justement des gens peut-être qui ont vu leur père faire des choses avec les mains très vite. Il y a ce goût du bel ouvrage. Alors après, évidemment, le bel ouvrage, ça devient une définition un peu académique, surtout après 1915, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire avec les mains.
Quitte à défaire le bel ouvrage.
Quitte à défaire et à saccager tout ça quand on comprend que le bel ouvrage, ça plafonne au bout d'un moment.
Alors, on est jeune et on est vieux, ça aime à dire Cocteau. Les années passant, dites-vous, Picasso se laisse volontiers aller. Le petit adulte précoce qui dessinait dans son coin quand les autres enfants jouaient au petit cheval semble à 70 ans vivre enfin une enfance normale.
Ça c'est Picasso.
Et il rajeunit au fur et à mesure.
Il semble rajeunir. Et effectivement, Cocteau, alors évidemment, là, il faut faire un pas à la part des...
Et Cocteau recherche la jeunesse. Ça va lui être fatal, d'ailleurs. Enfin, il recherche
la jeunesse. Alors, il faut faire la part aussi du lyrisme de Cocteau quand il commente la vie et l'œuvre de Picasso. Il en rajoute quand même toujours un petit peu. Mais enfin, effectivement...
Il a le sens de la formule.
Il dit pour le 75e anniversaire de Picasso...
Plus on a de bougies, moins on a de souffle. Avec Picasso, les bougies diminuent, le souffle augmente.
Augmente, voilà, la formule est merveilleuse. On rit parce qu'on sent bien qu'il y a quand même pas de flagornerie, mais enfin, c'est pas loin. Et en même temps, on voit bien ce qu'il veut dire, parce qu'il y a quelque chose qui ne suce pas dans Picasso. Et puisqu'il a tenu jusqu'à 92, à 93 ans, au travail, et que d'une certaine façon, travailler le rajeunissait, travailler le défatiguait. Mais ça, je pense, c'est le propre aussi des grands créateurs et des grands travailleurs.
Par contre, sa force, à lui, peut user les autres.
Oui.
L'entourage, je veux dire.
La force de Picasso, est effectivement exténuante pour l'entourage. Oui, elle est exténuante pour l'entourage. Alors, pour Cocteau, elle n'était pas exténuante parce qu'il ne le voyait pas très longtemps. Il allait lui rendre visite. C'est l'entourage qui a beaucoup morflé. On l'a beaucoup dit.
On le dit beaucoup en ce moment. Alors, pour Cocteau, il a un côté caméléon, Cocteau. Si sa porosité à autrui permet à Cocteau d'emprunter un peu toutes les formes, il n'en conserve aucune. Il a besoin de s'identifier à autrui, même quand il va créer avec Radiguet, on va en parler tout à l'heure, donc avoir un modèle littéraire. Il a besoin toujours d'un tuteur, finalement.
Oui, bizarrement, c'est pour ça qu'on peut dire que de cette façon, il n'a pas complètement réglé ce problème du modèle. Et alors, je ne sais pas s'il faut dire du père, parce que là, ça nous amènerait sur des territoires psychanalytiques où moi, je ne m'avancerai pas. Mais en tout cas, il y a toujours cette fonction du modèle qui est un stimulant, qui est à la fois aussi un moteur, mais aussi assez vite un rival. Et dans le cas de Picasso, c'est ce que j'essaie de montrer, il n'y a pas que de l'admiration béate et fondée, en l'occurrence. Il n'y a pas que de la volonté de comprendre qu'est-ce qui fait agir Picasso, qu'est-ce qui lui donne cette force si grande. Il y a aussi la volonté de prendre un peu de cette force, d'égaler Picasso et qui sait de le dépasser. Mmh. Ça, c'est un stade, je dirais, infantile. Alors, on peut dire aussi qu'il y a un peu d'hystérie, si on prend la définition de l'hystérie par Lacan, un sujet qui cherche un maître à dépasser. Mais on peut dire aussi que, de ce point de vue-là, Picasso avait un peu d'hystérie, parce que quand il cherche à égaler Velázquez, Murillo, Greco, Rembrandt, Poussin, il est aussi dans une forme d'hystérie, parce qu'il pense qu'il va les dépasser. Et c'est son but, et c'est son moteur. Donc les deux ont une sorte de fonctionnement par excès, qui d'une façon fait que c'est un couple qui a quand même, ils sont très différents psychologiquement, mais la structure a quelque chose de commun.
Ils sont rencontrés quand exactement?
Alors ils se rencontrent parce qu'en 1915, Cocteau va voir Picasso dans son atelier de la rue Schœlcher à Montparnasse pour lui proposer de faire le décor et les costumes d'un ballet qui va devenir Parade, qui va être essentiel dans, je dirais, l'émergence publique, visible de l'avant-garde à la fin de la guerre 14-18.
Moi, j'ai bien aimé le côté... En fait, Picasso n'est pas dupe de Cocteau et Cocteau n'est pas tout à fait dupe de Picasso. Mais j'ai bien aimé aussi le côté volontaire de Cocteau. Mmh. Quand on a lu La difficulté d'être, qui est un livre moi, qui m'a marqué, je pense
magnifique,
qu'il vous a marqué.
J'ai adoré ce livre.
Et c'est quand même Cocteau se construit. On y est sensible dans votre livre, Claude Arnaud. Par exemple, il y a cette anecdote. Il se gave de sucre afin de rêver plus souvent durant son sommeil, comme le lui a suggéré Stravinsky. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui se construit. C'est pas simplement un être doué, léger, brillant. Il a une volonté de, je dirais pas de progresser, mais de se construire vraiment.
Il y a une énorme volonté. C'est pas du tout un amateur. C'est pas
non.
du tout. Il a laissé cette image. Elle est cruelle et elle est fausse. C'est quelqu'un qui est profondément engagé dans son art, sauf que c'est pas un seul art, c'en est plusieurs à la fois.
Il a beaucoup de cordes à son arc.
Il s'appelait lui-même le Paganini du violon dingue. Il a aussi porté, il a tendu le flanc de ce côté-là. Mais donc, il faut prendre au sérieux Cocteau, hein, c'est ce que j'essaie de dire depuis cette grosse biographie. C'est quelqu'un qui a vraiment une ambition très grande, qui a effectivement cette fragilité qui est non seulement n'est pas cachée, mais qu'il montre en permanence. Et c'est là où il est, pour moi, il est impressionnant. Et pour moi, je dirais pas qu'il est un alter ego, parce que ça serait me mettre à égalité avec lui. Mais je dirais, oui, une sorte d'alter ego, au sens où c'est quelqu'un qui montre ce qui est aussi fragile en lui.
Bah, tous les deux sont multiformes. Enfin,
alors que Picasso, je dirais, montre sa force.
Il montre sa force, mais aussi en multiforme, c'est-à-dire c'est la gravure, c'est la peinture,
c'est la céramique,
le dessin, c'est un excellent dessinateur.
C'est un grand sculpteur, Picasso, c'est même, je dirais, au moins autant un sculpteur qu'un peintre. Cocteau, il y a cette variété-là, mais Cocteau est plus fragile, c'est certain. Il se cherche. Picasso se trouve, même quand il n'est pas bon.
Je ne cherche pas, je trouve.
Même quand il n'est pas bon, c'est lui, c'est bon. Ouais. Cocteau, il se cherche, et même quand il est bon, parfois, il se demande s'il l'est vraiment, et il est inquiet. Voilà, il y a cette inquiétude qui est une névralgie, qui est une faiblesse, qui a permis aux autres de le traiter souvent très mal, avec dédain, de le sadiser. Alors, Picasso a pu en profiter au passage. Ça, c'est sa fragilité, mais c'est aussi ce qui le maintient humain jusqu'au bout. Ouais. Même quand il est...
J'ai appris aussi que Picasso, ça je ne le savais pas, mais il était beaucoup plus inquiet quand il démarrait ses journées. C'est Françoise Gillot, je crois, qui le raconte. Il voyait la vie en noir, là. Après, il y avait des couleurs, hein, mais heureusement.
Alors ça, je pense que c'est quelque chose que ça m'a beaucoup intéressé de montrer ça, et c'était quand même un des ressorts du livre, c'est de montrer des deux côtés le prix à payer à la création, quand la création se situe quand même à un très haut niveau d'ambition artistique. Le prix est réel, il est lourd, et au bout d'un moment, le succès, la gloire, même dans le cas de Picasso, l'argent dans le cas de Picasso, ne suffisent pas à récompenser l'effort monstrueux qui est produit par ce genre d'être. Et Picasso est un être sombre. Picasso est un être pessimiste qui a une vision extrêmement décapante de la vie. C'est une sorte, on peut dire, de stoïcisme laconique, cynique. Cynique au sens de Diogène, hein, vraiment rude, râpeux, décourageant pour lui-même en particulier.
Sauf quand il peint.
Sauf quand il peint, mais il y a aussi, en fait, le doute, le travail aussi, parce que il a besoin de compliments, Picasso, tout le temps. Et c'est quand même une fragilité, alors qu'il masque, il compense très bien, parce que l'accueil est dur, parce qu'il se met toujours en position de force, parce qu'il s'arrange toujours pour que les autres soient en position d'être le demandeur ou la demandeuse. Mais il y a une fragilité, il y a un besoin de compliments, et il y a une impression d'inanité au bout d'un moment, parce que cette surproduction, parce que Picasso, on peut quand même le dire, a surproduit, parce que d'abord il a produit pendant 70 ans, même plus, et que c'était tous les jours, ouais. Sans arrêt. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pratiquement pas de vacances dans la vie de Picasso. Donc c'est une vie de bagnard, en fait. Et il le dit, je trouve que c'est la plus belle phrase qu'il a dans le livre, il dit, mais si tous les gens qui m'admirent savaient le prix à payer pour tout ça, ils ne voudraient pas de ma vie pour un seul instant.
Oui,
et voilà. C'est sincère. Et il n'est pas cabotin, là. Il n'est pas du tout démagogue. Il dit le désarroi d'une vie entièrement sacrifié à une ambition qu'on peut estimer remarquable, admirable, mais qui est destructrice, qui est ravageuse. Donc une des hypothèses du livre, c'est que oui, on va peut-être y arriver, Picasso a été terrible pour son entourage, a pu l'être, il l'a pas été tout le temps, oui. Mais effectivement il y avait une force de destruction, de prédation, de vampirisation et d'abandon après. Mais pour lui-même aussi, et peut-être en premier, et aussi bien pour les hommes de son entourage, que ce soit Max Jacob ou Cocteau, qui étaient aussi traités sur ce même mode. Donc tous ces gens ont été sacrifiés à l'autel de l'œuvre de Picasso, mais Picasso lui-même. Picasso oui. Lui-même se sacrifie.
Oui.
Alors enfin, on me dira, ça le regarde, et c'est lui que ça concerne, ce qui est vrai.
Oui, en même temps, c'est pas si simple que ça, c'est non. Ce que montre votre non. Livre. Par exemple, bon, c'est vrai que Picasso, avant d'en venir au côté... prédateur, si on veut. Et c'est le roi de la récup. Quand il rencontre Cocteau, il se présente à Cocteau moins comme un peintre que comme le roi des chiffonniers. Donc vous tracez aussi leur univers qui est fait de briques et de brocs. Les objets le suivent malgré eux, notre Cocteau qui le décrit s'enracinant dans le plancher de leur atelier. Voilà, ils font les brocantes. Picasso ouais. Aime l'art africain. Donc d'ailleurs, je pense à ces « Qu'est-ce qu'un peintre » dira-t-il avec le cynisme qui lui sert de masque. C'est un collectionneur qui se constitue une collection en faisant lui-même les tableaux qu'il aime chez les autres.
Chez les autres, oui.
Et ça, c'est important.
C'est très important. Là, on voit bien que c'est... Alors là, c'est un moment... Ça les dépasse en partie, c'est un moment de l'histoire de l'art, oui. Donc le début de la modernité,
Cubisme.
Où effectivement, voilà, on sort des grands musées, justement, où le petit Picasso et le petit Cocteau ont été formés. On sort des modèles académiques, et puis on va chercher dans la rue.
Voilà.
Les objets, les morceaux de bois, les casseroles, les pièces en fer. Cocteau, ça va aller au cirque, va aller dans les fêtes foraines, va aller dans les bals musettes. Dans tout ce qui était qualifié d'indigne, ou d'art mineur, ou d'art sale, ou d'art populaire, là, ils font leur marché très, très largement. Là-dessus, voilà. Ils sont de leur époque.
Ils sont de leur époque. Moi, j'ai bien aimé. Dans mes tableaux, je mets tout ce que j'aime. Ça, je pense que c'est de Picasso. Et par exemple, c'est un accumulateur. C'est un accumulateur
c'est un
de
accumulateur.
Rencontres.
C'est un accumulateur
d'objets.
Et il finit sa vie avec de quoi constituer, je sais plus combien on a de musées Picasso maintenant, mais ça nourrit une quinzaine de musées dans le monde.
C'est...
Non seulement les toiles, mais les objets, les boutons, les lettres, les manuscrits, les tickets de restaurant, les factures de térébenthine, ouais. tout est gardé.
Tout est gardé
aussi parce que tout a servi aussi à gribouiller, à esquisser, à faire un profil, à avoir une idée de sculpture. Tout est recyclé. Un des thèmes du livre aussi, c'est des machines à recycler.
C'est le recyclage et la métamorphose.
Et la métamorphose.
Ouais, on va faire une pause musicale et puis nous reprenons notre conversation, Claude Arnaud.
Nous allons écouter L'oiseau de feu de Stravinsky. C'était en 1910 et ça va être par Pierre Boulez. Pardon, c'est pas l'oiseau de feu, c'est celui-là, l'oiseau de feu.
Tu voulais un casque ? Vous êtes bien sur Radio Liberté à 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie, aujourd'hui en présence de Claude Arnaud pour Picasso, tout contre Cocteau, ça vient de paraître aux éditions Grasset. Claude Arnaud, c'est vrai que j'ai l'impression que Picasso et Cocteau sont deux énigmes, deux mystères, deux tempéraments, et ils ont des différences. Et ça, vous les montrez très bien dans votre livre. On pourrait dire que c'est un livre... Il y a le clair, enfin c'est un jeu de clair-obscur, voilà, il y a de reflets, de... Vous écrivez par exemple que Picasso se définira comme un mensonge qui dit la vérité, non, Cocteau se définira comme un mensonge qui dit la vérité, Picasso est un mutisme qui oblige chacun à l'interpréter. Là, il y a quand même une grande différence entre les deux.
Oui, et c'est des natures extrêmement différentes, psychologiquement, structurellement, psychiquement aussi. Et en même temps, c'est ce qu'on essaie de définir un peu depuis le début de l'émission, il y a des passerelles, il y a des points communs dans la structure artistique, dans la volonté artistique, dans l'ambition artistique de se dépasser et de dépasser les autres. Donc là, il y a quelque chose où ils se retrouvent, ils sont très très proches. Mais je dirais, c'est comme dans un couple, il y a un effet de révélateur réciproque. C'est-à-dire Picasso révèle Cocteau qui lui-même révèle Picasso dans des zones où on n'a pas l'habitude d'aller fouiller parce que c'est deux très fortes personnalités. Et je dirais, c'est le livre aussi, c'est le livre d'un couple.
Oui,
il n'y a pas eu de sexualité sexuelle entre eux, mais il y a eu de la sexualité artistique, il y a eu de l'affection, de l'agacement, de l'irritation, de la jalousie, de la haine, du mépris, et à nouveau de l'admiration, comme dans les couples, mais des couples durables. Je veux dire, il y a vraiment une matière conjugale, je trouve, dans le livre, et c'est pour ça que je pensais que ça valait le coup de revenir cette fois encore sur Cocteau, parce que avec Picasso, il révèle d'autres choses qu'il n'a pas révélées avec Proust dans d'autres relations. Et qu'il avait ce besoin de faire couple dont vous parliez tout à l'heure à propos de Radiguet.
Oui.
Toute sa vie. Toute sa vie.
Mais Picasso un petit peu aussi à sa façon. Par exemple, pour Braque. Picasso dira que Braque, c'était il le considère comme une femme, enfin.
C'était la première de mes femmes,
oui, c'est ça. Oui, il a besoin d'une sorte de tandem, de duo créatif.
Oui, il a, alors peut-être moins, de façon moins systématique que Cocteau, mais il regarde de ce côté-là, et si le tandem n'est pas effectif, comme à l'époque de Braque, qui est quand même exceptionnel, puisqu'ils ont, 3-4 ans, où on ne sait pas identifier parfois ce qu'a fait Braque de ce qu'a fait Picasso à l'époque du cubisme vraiment premier militant. Mais même on peut dire qu'il a fait couple avec Matisse, Picasso à distance. Matisse était à son alter ego, mais celui qu'il voulait, avec qui il rivalisait. Et dont il savait que sur certains points il le dépassait, mais que sur d'autres, sans doute, Matisse était plus fort. Mais il fait des couples aussi, mais beaucoup plus à distance et qui contrôle, je dirais, mieux. Cocteau, et c'est sans doute en cela qu'il est, je pense, plus émouvant que Picasso, fait des vrais couples. Et si ces couples peuvent même devenir amoureux, sexués, il est partant.
Il est partant.
Avec Radiguet, il est partant.
Il est partant.
Alors, Cocteau. Je ne sais pas ce qui serait passé, c'est Picasso.
Mais d'ailleurs, ce que vous dites, Cocteau montre un réel attachement aux formes qu'il emprunte, comme aux êtres avec qui il collabore, quand Picasso s'en détache insensiblement. Donc, ils évoluent différemment. Dans leur création et
absolument.
Dans leur façon.
Et l'attachement n'est pas du tout le même. L'attachement chez Picasso, il est réel. Picasso tombe amoureux, Picasso s'enthousiasme, Picasso tout d'un coup, oui, impressionné, mais il est plus conquérant, il est plus goulu, il est plus ogre. Et une fois qu'il a pris, il digère et puis il recommence, quoi.
Oui, il y avait un côté minotaure.
Un côté minotaure, c'est plus brutal, ça. Cocteau, ça dure, parce que Cocteau est plus sensible, Cocteau est plus délicat, Cocteau est plus fragile, Cocteau est plus affectif. Cocteau est plus affectif.
Oui, voilà. Et alors, vous montrez aussi que Cocteau, comme Picasso, ferme la porte de son atelier, alors que Cocteau ouvre la porte à beaucoup de gens. Ça, c'est quand même... Voilà, je parle des différences entre eux.
Ça, c'est une vraie différence, oui. Alors, il est vrai aussi que la gloire de Picasso était devenue extrêmement embarrassante après la guerre.
Oui.
Et qu'il était harcelé en permanence de gens qui venaient le voir pour se faire offrir quelque chose, se faire signer un dessin, se prendre en photo. Cocteau est quand même moins harcelé. Cocteau est plutôt demandeur de cette gloire dont il a toujours, alors qu'il a eu un très grand succès, mais cette gloire de Picasso.
La lumière l'attire.
Petit côté, par moments, Phalène.
Un peu Midinette, parfois.
Fasciné, parce que les gros projecteurs sont sur Picasso. Lui, il a plutôt les petits projecteurs. Là, il y a quelque chose d'enfantin. de dérisoire, d'un peu, bon, par moment on dit quand même, tu devrais être plus sobre, tu devrais te tenir à distance. Non, il ne peut pas, il ne connaît pas la distance, Cocteau.
Il faut tenir ses distances. Il a quand même des rituels.
Il y a un protocole. Surtout à la fin.
Et il dit, on n'a jamais, d'ailleurs, à un moment donné, été à tu et à toi avec, enfin, voilà.
On n'est pas copain comme cochon avec Picasso. Et Picasso adore répéter la phrase de son père qui disait, les moments de mes amis que je préfère, c'est quand ils s'en vont. Donc c'était clair, quoi. Ça veut dire.
Non, mais il y a des limites qui sont.
Il y a des limites, voilà.
Tous les deux, par contre, sont superstitieux, oui. Je trouve.
Très.
J'ai entendu dire que Picasso supportait pas qu'on prenne des affaires de lui ou des. Il était très. Il avait très peur.
Il garde ses rognures d'ongles. Voilà, elles sont conservées au musée Picasso. Il y a des boîtes entières de rognures d'ongles, de cheveux.
De cheveux.
Parce que là, c'est une superstition. Alors, je ne sais pas si on peut dire à l'Andalouse ou si ça vient d'ailleurs, mais c'est si quelqu'un prenait un peu de ses cheveux ou de ses ongles, il pouvait en faire un mauvais usage parce que il pouvait influencer à distance sur son corps et donc lui nuire.
Ouais. Et Cocteau aussi.
Cocteau est très superstitieux.
Très superstitieux. Quand quelqu'un, il croit aux bonnes ondes, mauvaises ondes, quand quelqu'un.
Très fortement, ouais. Il croit aux guérisseurs, il croit aux rebouteux, il croit à tout un tas de. Alors, c'est le comble, c'est à l'époque des soucoupes volantes. Il s'intéresse à tous les ufologues qui essayent de transcrire les messages cryptés des extraterrestres. Enfin, c'est. Il croit à tout. Cocteau croit à tout parce que ça l'intéresse plus que la réalité, c'est-à-dire toutes les fictions, qu'elles soient métaphysiques, pataphysiques ou physiques, l'intéressent plus que la réalité qui est grise, effectivement. La réalité de l'incroyant ou de l'athée, elle est un peu grise.
Mais alors, il y a un rapport un peu, comment dire, à sens unique quand même entre eux, même si c'est un échange créatif très positif aussi. Par exemple, Cocteau craint logiquement le verdict de Picasso plus que Picasso le sien quand il dessine. Plus Cocteau loue Picasso, moins il se voit loué, et jamais l'Andalou ne lui parle en retour de ses toiles. Donc il y a le retour, surtout évidemment quand Cocteau dessine, à la Picasso. D'ailleurs, Picasso va dire à la Picasso, carrément. Lui.
Parfois à la Picasso, mais parfois il dessine à la Cocteau, il dessine très bien. Quand Cocteau fait du Cocteau, il est un excellent dessinateur.
Oui.
Mais parfois, effectivement, ça l'amuse. Mais Picasso peut aussi faire du Cocteau. Et pendant l'époque de Parade, où il prépare Parade à Rome, par moment, on ne sait pas qui imite qui, parce qu'ils ont ce don mimétique tous les deux. La seule chose, évidemment, c'est que Cocteau se positionne dans l'univers plastique de Picasso, et non pas le contraire. Picasso a écrit de la poésie, mais très discrètement, sans la publier pendant des années. Et c'est pas Picasso qui va voir Cocteau poète pour essayer de savoir comment écrire un bon poème.
Non.
C'est quand même Cocteau qui va voir Picasso pour savoir comment lui fait pour être si fort et si pluriel, si multiple, si abondant dans sa création. Donc il est certain que Cocteau allant sur le territoire de Picasso, Cocteau est demandeur et fragile. C'est normal.
Ben, c'est normal. Alors le mystère Picasso, ce fameux mystère Picasso, le fameux film qu'on connaît tous, mais le mystère, je crois que c'est vraiment, il le cultive, Picasso. Picasso, dites-vous, a plus d'idées que tout le monde, mais n'éprouve pas le même besoin d'en faire état. Ça, c'est notre Cocteau. Il préfère avancer en artisan supérieur plutôt qu'en artiste autoproclamé, plutôt que d'analyser comment les choses naissent en lui, il préfère leur donner vie. Je ne dis pas tout, mais je peins tout.
Oui, parce que Picasso a ses formules magnifiques aussi. Alors, Cocteau est brillant en formule, mais Picasso a des formules laconiques, ramassées, qui frappent. Et là, on sent sa force, parce que en 10 mots, il arrive à dire quelque chose d'assez profond. Il y a une phrase magnifique qu'il a, parce qu'à un moment, à la fin de la vie, il y a quelque chose de triste dans le destin de Cocteau qui se compare et qui trouve que il n'a pas l'aura, il n'a pas l'autorité, il n'a pas l'écrasante célébrité de Picasso. Et Picasso lui dit, oui, c'est vrai, c'est injuste, mais tu sais comment ça marche, chaque génération va choisir dans la ruche va choisir une reine. Et la reine est gavée et c'est elle qui va tout emporter. Et donc Picasso a quand même une intuition très forte sur son destin.
Oui, très forte.
C'est qu'il sait bien qu'il est une abeille au départ, comme d'autres, mais il avait peut-être ce petit quelque chose en plus d'une ambition, d'une précocité exceptionnelle et d'un talent quand même complètement unique. Mais il a bien conscience qu'il a été gavé Alors aujourd'hui, on est en train de lui retirer tout ce dont on l'a gavé pendant près d'un siècle, mais il a conscience d'avoir été gavé, et il a conscience que c'est pas exactement le cas de Cocteau. Et là, il a une intelligence brutale, pragmatique, y compris à son détriment, parce que c'est pas flatteur pour lui.
Oui, et c'est vrai, bon, Cocteau, il fait un peu partie de son univers. Pour bien travailler, dites-vous, Picasso a besoin d'un atelier qui l'isole du monde, d'une femme qui conforte son être, et d'un écrivain apte à vanter ses exploits. Donc Picasso, c'est une sorte de roi naturel qui s'impose. Oui. Mais il y a une sorte de magnétisme. Ouais. Je dirais que, par exemple, vous dites Picasso garde ses distances, Cocteau s'approche donc un peu plus de son feu central, dans le secret espoir de comprendre comment ce créateur s'incarne dans tout ce qu'il fait. Comment il s'incarne dans tout ce qu'il fait. Et ça, ça fascine Cocteau.
Oui, cette capacité de se transposer presque physiquement chaque jour dans un tableau, une sculpture, une céramique, et d'habiter tout ça. Là, il y a quelque chose qui le... Parce que Cocteau n'a pas cette régularité dans la production. Cocteau est un petit moteur à explosion, assez fragile. Petit, je dis pas au sens qu'il a fait des petites choses, il a fait de grandes choses à mes yeux. Mais je dirais petit parce que ça tourne 15 jours, puis après il s'arrête, il est épuisé, il n'y arrive plus. C'est pour ça que les formes de Cocteau sont brèves en général. Il n'y a pas de grands romans, il y a que des récits. Les films, il fait des films. Il est meilleur, je dirais, dans un court métrage comme Le sang d'un poète que dans certains de ses longs métrages comme Les deux Orphées. Il aime la forme courte, ramassée, nerveuse, électrique, vibrionnaire. Il voit quand même Picasso comme une machine beaucoup plus, et une moissonneuse-batteuse à côté. Il produit, il tourne, il coupe du blé, il coupe de l'avoine, il coupe du maïs, il fait de l'alcool de malt, il fait tout ce qu'on veut. Là, il y a quelque chose qui impressionne Cocteau et qui a impressionné tout le monde à l'époque, sauf les gens qui détestaient Picasso.
Alors, pour en revenir au côté, entre guillemets, prédateur de Picasso, Picasso l'avouera lui-même, les bons artistes copient, les grands volent. Donc il y a un rapport bien, moi je dirais que votre livre le montre bien, c'est tous les créateurs, enfin beaucoup de créateurs, c'est le rapport, ce qu'on prend pour créer, ce qu'on recycle, ce qu'on transforme, le vécu, le vivant et la création. Comment tout ça s'interfère? Est-ce que la création prend le vivant et Alors ça, c'est quand même... Je dirais que vous dépassez, et c'est heureux, je trouve, parce que c'est un peu simpliste de dire « Ah ben, il y a un méchant prédateur qui est un grand créateur ». Je pense que c'est pas tout à fait ça non plus.
Non, pas du tout. Je pense que ce que j'essaie de dire, c'est que... ce que j'essaie de montrer, c'est les rouages de la création. Et ces rouages sont complexes. Dans la création, il y a toujours de la prédation. Vous prenez quelque chose à la réalité. Vous prenez quelque chose aux êtres qui vous entourent.
Un romancier
prend. Après, il prend et il transforme. Et il agit de façon plus ou moins brutale, agressive ou délicate ou respectueuse. Ça, après, on peut juger. Mais sur le fond du processus créatif, il y a du vol, il y a du pillage, il y a du copiage, il y a de la prédation. Et la prédation, elle s'exerce sur tous les domaines, pas seulement la vie affective, la vie amicale autour de soi, mais peut-être encore plus dans la vie seconde, qui est la vie que crée l'ensemble des œuvres d'art ou des œuvres écrites qui ont été produites par l'humanité avant soi. Donc je dirais qu'un créateur, il pille d'abord les livres, les musées, avant même de piller son entourage. Je dirais, le jeune créateur, c'est pas son entourage qu'il va piller en premier, parce qu'il est trop jeune pour savoir quoi en faire. Quand Picasso et Cocteau ont 13-14 ans, ils ne vont pas piller leur entourage comme ça. Ils vont d'abord aller dans les musées, lire des poètes, et essayer de copier, de faire comme eux. Donc en fait, le pillage, il commence très très tôt. Et de cette façon, le pillage, il commence à la lecture. Vous lisez un livre, vous prenez quelque chose,
vous nourrissez.
Alors, vous ne volez pas, parce qu'a priori, vous avez acheté le livre, on vous l'a offert. Quoique parfois, quand vous avez 14 ans, vous le volez, c'est quand même plus rapide, et vous n'avez pas les moyens de l'acheter. Mais de toute façon, vous volez quelque chose. Vous volez quelque chose à Proust, vous volez quelque chose à Montaigne, à tous les gens que vous lisez. Vous prenez. Bah, disons que le créateur est celui qui se dit qu'il y aura une étape après, où il va faire quelque chose à lui de tout ça. Mais c'est une immense entreprise de pillage, de copiage, de vol, de prédation. Donc, il ne faut pas moraliser ce processus-là. Là, j'essaie de dire ça dans mon livre, sans rentrer dans la polémique contemporaine. Mais je veux dire, je suggère ça en disant, mais regardez, attention, avant de juger moralement, un tel est un prédateur, un tel est un salaud, un tel a pris ça à une telle. C'est dans le processus quand même. Hein. Après... Après, il y a des gens qui se comportent plus ou moins bien dans la vie, et ça, on peut faire le distinguo. Mais sur le processus créateur, il faut savoir que c'est pas...
Et c'est deux grands créateurs.
Oui, c'est deux grands créateurs.
Cocteau-théorie, ça, ce que vous écrivez, Cocteau-théorisera ce recours assumé à l'emprunt par un paradoxe. Un artiste original ne peut pas copier. Il faut donc copier pour être original. Autant dire, un vrai créateur ne reproduit jamais, il s'approprie.
S'approprie, oui.
Et tous les deux, on voit
sont
en fait...
Ils sont très conscients de ça, oui. Ils sont très conscients de ça. Ils s'approprient des choses et... Et c'est vrai, alors je le dis là, avec mon expérience à moi, je suis en train de faire un roman qui est autour de 650 pages.
Oula.
Je prends de partout, parce que j'ai ma structure, j'ai mes personnages, j'ai mes situations, et après tout ce qui me vient peut faire ventre, comme on dit, peut nourrir la poupée. C'est des poupées, c'est comme des poupées vaudou. Vous ajoutez des épingles, vous avez des bouts de chiffon, des dents cassées, des cheveux. Justement, les fameux cheveux que Picasso gardait jalousement pour pas qu'on lui jette de mauvais sort. Tout ça peut marcher.
Pour s'incarner.
On va
faire une petite pause musicale et nous reprenons notre conversation.
Alors, cette fois, Georges Auric, le peintre et son modèle.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire, nous poursuivons notre conversation avec Claude Arnaud pour Picasso tout contre Cocteau aux éditions qui viennent paraître aux éditions Grasset. On va parler maintenant de deux personnages, Claude Arnaud, Radiguet qui est un personnage finalement avec lequel Picasso s'entend assez bien. Vous dites Radiguet est capable de dévisager son interlocuteur avec une impassibilité inquiétante et de lancer un peintre demandant ce qu'il doit faire de la croûte qu'il vient d'esquisser. Il serait charitable de l'achever. Et ça, Picasso aime bien. Le jeune homme a une autre qualité aux yeux des aînés. Il n'entend suivre aucune mode. Ce que Picasso reconnaît, il y a une sorte de reconnaissance tacite de Radiguet. Hein. Vous dites d'ailleurs que vous le comparez, Radiguet et Picasso, ils sont tous les deux de la race du verre et du diamant. Hein, voilà, il y a une cruauté chez Picasso.
La race du diamant, hein. Cocteau se vivait comme la race du verre, et en face de ces deux diamants qui étaient capables de l'oreiller, mais de le marquer.
Mais c'est vrai que il y a une forme, il y a une cruauté chez Picasso, faut pas et Radiguet aussi.
Et Radiguet est très cruel.
Oui.
Non, c'est des cruautés assumées, je dirais, qui ne se cachent pas du tout. Dans le cas du procès Picasso, si on prend ponctuellement l'aventure qu'il a avec Dora Maar sait très bien qu'elle a affaire à quelqu'un de cruel,
et elle-même quand elle le rencontre,
un rapport cruel elle sollicite cette cruauté, la fameuse scène de la rencontre au café de Flore, où elle plante un poignard entre chacun de ses doigts devant lui en lui donnant quand même une sorte de feu vert à
la programme.
Voilà, en disant si tu aimes la cruauté, moi aussi, on va s'entendre. Donc là aussi, il faut quand même relativiser tout ça. Picasso est connu comme le loup blanc, comme un prédateur, comme un voleur en termes artistiques, mais aussi comme quelqu'un de cruel en termes humains. Et ça, dès les années 10. C'est...
Cruel, ça dépend avec qui, peut-être.
Oui, et pas tout le temps.
Parce qu'avec
il
a même, par rapport à ses femmes, avec Fernande Olivier, il a gardé une bonne relation avec elle.
Excellente relation toute sa vie. Ça dépend, comme toujours. Et puis, je dirais, comme les, dans un tout autre niveau, les imposteurs réussissent parce que les imposteurs ont du charme et qu'on a envie d'être avec eux aussi. Donc, je veux dire,
Cocteau avec Thomas l'imposteur.
Voilà, Thomas l'imposteur. Voilà. Donc, il faut comprendre quand même qu'un défaut, pour qu'il s'exerce, il doit être aussi ceinturé de qualité. Sinon, ça ne marche pas.
Aime intensément et tue ce qu'il aime. Ça, c'était l'analyse d'un graphologue au sujet de Picasso. Hein. Donc, ça, c'est... Et donc, au sujet de Radiguet, l'écrivain, donc, c'est Cocteau, fait appel au docteur Capmas, qui n'avait pas pu sauver Apollinaire et qui ne pourra pas non plus sauver Radiguet. C'est terrible. Ça fait en 2023, ça fait 100 ans d'ailleurs, la mort de Radiguet
mal soigné, la fièvre typhoïde pas bien identifiée, pas bien diagnostiquée. Donc, d'où culpabilité de Cocteau, qui est un être de culpabilité, de toute façon. Hein. Il se sent coupable du suicide de son père, il se sent coupable de la mort de Radiguet, il va se sentir vite coupable.
Et on va être assez injuste avec Cocteau, c'est ce que vous racontez, parce que finalement, on l'appelle, tout Paris l'appelle le veuf sur le toit après la mort de Radiguet. On lui fait pas de cadeau.
Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que globalement, toute notoriété, dès qu'elle est un peu comme ça, elle atteint ce niveau-là, surtout dans une ville comme Paris, elle est payée aussi. On la paye aussi, hein, d'une suspicion, d'une malveillance quand même qui est pas qu'épisodique. Disons que Picasso y a exceptionnellement échappé entre les années 30, je dirais, et sa mort, pratiquement. Maintenant, ça va moins bien pour lui. Mais disons qu'il a eu une protection, il a joui d'une protection exceptionnelle pendant 40 ans pour quelqu'un à ce niveau-là de célébrité.
Oui, parce que c'est aussi un personnage artistique, politique, il a eu des engagements politiques.
Voilà.
C'est quelqu'un qui avait du poids, enfin, je veux dire. Voilà.
Et c'est un stratège. Hein.
C'est un stratège.
C'est pas un agneau, ça, c'est sûr.
Non, on n'est pas chez les bisounours.
Hein, non, on n'est pas chez les bisounours.
Alors, il fait des coupes en dab quand même à son ami Cocteau. Hein. En 1926, je crois, il y a la traduction de l'interview que Picasso a donnée à la Publicitat, un journal catalan. Voilà ce qu'il dit. Cocteau, c'est une machine à penser. Ses dessins sont fort gracieux, sa littérature très journalistique. Si on faisait des journaux pour intellectuels, Cocteau servirait chaque jour un nouveau plat, une élégante pirouette. S'il pouvait vendre son talent, nous pourrions aller toute la vie à la pharmacie acheter un cachet de Cocteau sans arriver à épuiser son talent. C'est à la fois... C'est mitigé, alors, là. On pourrait dire que c'est quand même mitigé.
C'est plus que mitigé, mais c'est une fausse interview de Picasso. Hein. Je le rappelle, c'est les surréalistes qui fabriquent cette interview en donnant la traduction en français d'une interview supposée qu'en fait, Picasso n'a jamais accordée. Mmh. Mais il y a un doute parce que Picasso ne dément pas cette publication, sauf
parce que
Picasso ne dément jamais rien.
Il
ne veut pas avoir affaire à la presse. Il a longtemps énormément méprisé la presse, avant de finir quasiment dans la prostitution avec Paris Match et tous ces magazines-là qui venaient le photographier en short, en slip de bain chez lui. Enfin, disons tout, encore dans les années 20-30, mépris total pour la presse, qui ne l'a pas soutenu au départ, qui l'a même dégommé à l'époque cubiste, et donc qui a mis très longtemps avant de comprendre qu'il a affaire à quelqu'un. Donc mépris total pour la presse, pas de démenti.
La
presse dit n'importe quoi, je m'en fous, ça me regarde pas, c'est pas moi.
Mais on se demande si ça l'amuse pas.
Il en joue en partie.
Même Cocteau, il est très généreux pour ses formules. On s'approprie ses propres formules et très gentil. Il m'a dit oui, c'est d'un tel, alors c'est de lui.
C'est de lui, oui. Oui, là, il y a quelque chose.
Il y a comme un jeu,
voilà. Ils peuvent jouer, disons que le jeu est cruel assez régulièrement pour Cocteau. Si Cocteau...
Cocteau, quand même.
D'abord, il rebondit, et je le dis un peu dans le livre, ses souffrances, et donc, là, on peut parler un peu de masochisme, ses souffrances l'aidaient aussi à continuer de créer. Ses souffrances lui donnaient une matière première très forte. Donc il n'a pas peur de souffrir. Ça l'intéresse de souffrir. Ce n'est pas en soi mal, ou ce n'est pas quelque chose qu'il essaie d'éviter. Ça lui permet d'abonder aussi. Mmh. Un poète... le sang d'un poète, c'est pas pour rien qu'il appelle ça. Un poète travaille avec son sang. Ouais. C'est pas avec de l'encre Waterman, acheter 3 balles dans la papeterie d'en face. C'est avec son propre sang. Ouais, et pour que le sang coule, il faut quoi? Il faut souffrir. Ouais. Donc il y a une dimension christique. Alors, il y a toute une mythologie christique indéniable dont Picasso a su profiter. Parce que
Picasso pas... on sent qu'il est flatté. En plus, c'est un poète. Enfin, il y a un jeu de. Mais alors, voilà ce qu'il aurait dit à l'un de ses visiteurs, Picasso. Ce que Cocteau fait de mieux, ce sont ses préfaces. Bon, peut-être que c'est l'art du bref, on va dire.
L'art du bref, voilà. Alors après, Cocteau n'en pensait pas moins.
Voilà.
Mais Cocteau n'a pas la force de le dire directement devant Picasso. De toute façon, ça aurait été quand même très risqué. Mais il le dit dans son journal. Et son journal, les jours où ça va pas bien, les jours où il est pas content, c'est quand même un réquisitoire contre Picasso féroce. Quand on lit ce journal calmement, quand on agglomère, parce que c'est toujours éparpillé dans un journal, mais si on fait une boulette de toutes les... C'est extrêmement dur sur Picasso aussi. Il est très lucide, Cocteau.
Ah bah ouais,
mais il a besoin d'aimer, il a besoin d'admirer, il a besoin de le voir, il a besoin de lui dire « Sans toi, la vie est triste ». Ces déclarations d'amour et touchantes qui sont vraiment sincères. Là, c'est pas de la,
bah, je pense
de la flagornerie.
Il a besoin de... Voilà, avec Picasso, il s'ennuie pas.
Enfin, s'ennuie
là,
pas,
il
voilà.
S'ennuie pas, c'est,
non, on s'ennuie pas.
C'est
voilà,
vital. C'est vital,
voilà. C'est pour ça aussi que Picasso attrapait quand même beaucoup de mouches dans, ben son, oui, dans oui. son vinaigre, je dirais. C'est que c'est vital, c'est intense, c'est intelligent, c'est impressionnant, c'est pas plat, quoi. C'est pas plat.
Et alors, ce qui frappe aussi dans votre livre, Claude Arnaud, c'est la lucidité de Picasso vis-à-vis de lui-même. C'est quelqu'un qui est très lucide. Il dit, par exemple, « Je me suis créé une solitude que personne ne soupçonne. » Même sur son atelier rue de la Boétie, il écrit « Je ne suis pas un gentleman ». Donc il est lucide sur lui-même. Et Cocteau lui dit un jour « C'est drôle qu'aucun jeune ne s'acharne à te tuer ». Il s'étonne, Cocteau. « J'ai pris lui devant », lui répond froidement Picasso. Donc il n'est pas dupe de lui-même non plus, Picasso.
Non.
Il est dupe. Enfin, c'est quelqu'un de très très.
C'est quelqu'un de complexe. Hein. C'est quelqu'un d'intensément intelligent, lucide, décapant, oui. abrasif. Certes, alors il est tellement abrasif qu'il a besoin, du coup, pour se regonfler, de compliments et des flagorneries, parfois aussi, et de l'encens. Ouais. Mais ce besoin d'encens vient du fait que lui, il est un peu un destructeur d'encens.
Ouais,
il est
ouais.
un destructeur de. Il s'auto-détruit aussi d'une façon bizarre. Et c'est vraiment. C'était intéressant d'aller creuser à l'intérieur de ces deux natures extrêmes, même si on a tous en nous, je veux dire, pas comme l'autre, quelque chose de Tennessee, mais on a tous en nous quelque chose de ces composantes-là.
Bien sûr.
À la fois de besoin de reconnaissance, puis en même temps de solitude, d'orgueil. Ils sont assez représentatifs, je dirais, de tous les couples humains et puis de nos natures, d'une certaine façon. Ils exagèrent nos natures. Voilà.
Alors, il y a une autre rencontre, c'est Jean Marais, qui impressionne Picasso par sa beauté. La femme qui est en Picasso aime mieux les hommes que l'homme qui est en Picasso n'aime les femmes, note-t-il. Ça, je pense, c'est Cocteau.
Oui, c'est Cocteau.
Hein, c'est Cocteau. Picasso ne couche pas avec les hommes, voilà tout. Mais il est évident qu'il les préfère aux femmes et que les malheureuses avec lesquelles il se met en ménage doivent payer les unes après les autres cette secrète préférence. Donc, vous suggérez une bisexualité latente de Picasso.
Oui, on peut dire ça. On peut dire ça.
Qu'il est sensible à la beauté, en fait.
Il est sensible à la beauté et la beauté masculine, d'une certaine façon, lui inspire plus de respect sur la durée, parce qu'elle ne sert à rien, elle ne lui sert pas sexuellement, il n'en fait pas quelque chose, mais que du coup elle reste, elle n'est pas dégradable, elle n'est pas biodégradable comme la beauté féminine, que la sexualité quand même, dans son cas, consomme et à un moment, et surtout la peinture consomme, parce que bien au-delà de la sexualité, c'est le fait que toutes ses compagnes étaient peintes et surpeintes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis jusqu'au moment où ça a décliné, immanquablement. La beauté masculine, elle reste.
Il est impressionné par Jean Marais, qu'il aime bien, enfin, optimiste, joyeux, vivace, l'acteur débutant a un rapport plus que fluctuant à la vérité, dites-vous, fils d'une kleptomane, et d'ailleurs Jean Marais va aussi piquer dans les pharmacies, je crois qu'il va...
Oui, piquer beaucoup pour Cocteau, pendant l'occupation.
Il piquait beaucoup Jean Marais, et il remodèle les faits à sa guise, et poétise d'instinct son existence. Et c'est Dora Maar qui dit « Il aurait voulu être Jean Marais », confiera Dora Maar à Cocteau. dont c'est aussi le cas.
Oui, donc Picasso aussi voulait être quelqu'un d'autre à sa façon.
Oui, c'est ça.
Il voulait être plus que tous ses grands pattes, mais comme homme, il était triste parce qu'il était, comme vous savez, très rablé, très court sur pattes, petit, alors que son père était au contraire assez oui, élégant. Et donc, il est pas content de lui, Picasso. C'est ça qui est intéressant. Il aurait voulu alors être un beau mec. Il n'était pas.
Et alors, c'est vrai que Françoise Gillot, elle est très lucide, elle aussi, sur tout, surtout.
Elle a 103 ans, elle vit toujours
elle
à New York.
Elle vit toujours, bien sûr.
Et sa cote, maintenant, vaut très très cher. Les tableaux de Françoise Gillot, ça s'est emballé. Donc, il y a une espèce de revanche étonnante de l'histoire, elle, que Picasso a essayé de mettre... à l'écart artistiquement, hein, en demandant à la galerie Louise Deris de plus la représenter, elle s'est bien défendue.
Elle s'est bien défendue.
C'est
une femme remarquable. De 45 ans plus jeune que lui, ne s'accordant aucune féminité a priori, Françoise Gillot a su, dites-vous, réveiller les ambiguïtés de Picasso. Je l'aimais comme si c'était un garçon, avouera-t-il. Donc, Françoise Gillot conseille Cocteau. Elle l'oriente.
Elle l'oriente.
Elle lui donne des clés pour pas se laisser faire non plus.
Voilà. Elle l'aide, elle le protège. Mais c'est un peu le rôle que beaucoup de compagnes de Picasso ont joué avec Cocteau. Ça, c'est assez touchant. Il y a une espèce de complicité tacite entre la compagne et l'ami homosexuel critique, poète lauréat. Ces deux fragilités qui se soutiennent devant le Minotaure, devant l'ogre.
Alors, elle dira même qu'il aurait été avec Max Jacob, Picasso. Enfin, ça, c'est la théorie de Françoise Gillot.
Oui, Françoise Gillot voulait croire qu'en tout cas, Picasso avait essayé, ce qui est tout à fait possible.
C'est la nature de Picasso.
Ouais.
C'est un artiste expérimental, être expérimental.
Expérimental, exactement.
Dans tous les sens du terme.
Dans tous les sens du terme.
Et c'est vrai, non, mais on sent qu'il y a une vraie amitié entre Françoise Gillot et Cocteau. Je crois que c'était bien passé aussi avec Olga, mais enfin, on sent que, voilà...
plus profond avec Françoise Gillot.
Ouais, c'est
beaucoup plus profond.
C'est une femme en plus qui est intellectuelle.
C'est une femme extrêmement intelligente, c'est une créatrice elle-même, donc c'est quelqu'un qui était capable de répondre à Cocteau et de comprendre les problématiques de Cocteau et de Picasso, qui a écrit un excellent livre, non seulement Vivre avec Picasso qu'on connaît, mais un petit livre sur Matisse et Picasso qui est remarquable d'intelligence artistique, qui est vraiment... donc il y avait, là c'est certainement... l'interlocuteur numéro un que Cocteau a eu parmi les compagnes de Picasso. Oui, c'est ça.
Voilà, je crois ce qu'elle écrit. Quand Jean Cocteau est de face, il est encore de profil. Et quand Picasso est de profil, il est encore de face. Elle saisit bien les
êtres. Elle saisit bien, voilà, à la fois l'esthétique de Picasso, l'intelligence. Non, elle a une très grande intelligence. Hein. Quand j'écrivais ma biographie, j'avais passé une journée entière avec elle dans son atelier à Montmartre. J'étais sorti vraiment impressionné par la finesse, l'acuité, la justesse. Aucune amertume, aucune revanche. Elle avait tout dit la première sur la cruauté de Picasso. Tout le monde lui était tombé dessus à l'époque. Tout le monde. Je cite aussi en premier John Richardson, qui était un grand ami, qui était le biographe de Picasso, qui a dit, mais on peut pas dire ça, c'est pas possible. Elle est restée intacte et elle pense toujours la même chose aujourd'hui, donc ni plus ni moins. Mais elle avait tout dit avant tout le monde. Si on veut avoir une lecture, je dirais pas féministe, mais juste juste, équanime de Picasso, on lit Vivre avec Picasso de Françoise Gillot. Tout est dit, tout est là.
Tout est dit et c'est vrai, ça a été la femme qui lui a résisté et qui...
Et qui est sortie sorti la tête haute et qui a gagné.
Alors, pendant la guerre, la situation de Picasso et Cocteau n'est pas tout à fait égale. Hein. Vous dites, pour Cocteau, sa situation professionnelle apparaît presque plus fragile que celle de Picasso. Il dépend des autorisations vichysoises et allemandes pour faire représenter ses pièces, dont les avant-premières sont régulièrement perturbées par des émeutes. Enfin, voilà.
C'est vraiment des nervis d'extrême droite qui sont téléguidés par Je suis partout et par toutes les revues ultra-collaborationnistes, fascistes. Et pour qui Cocteau est l'emblème de la décadence de la France enjuivée, de la France homosexuelle, donc tout ce qu'il déteste. Donc les attaques sont vraiment physiques, je dirais. C'est-à-dire, on veut interdire ces pièces et parfois on y arrive. Et donc ça met Cocteau dans une situation de dépendance assez grande vis-à-vis des autorités vichysoises et d'occupation, puisque les deux ont quand même sur Paris une autorité. Donc, ça fait de Cocteau tout sauf un résistant. Mais Picasso aussi a été tout sauf un résistant. Il a continué de travailler, imperturbable, avec sa fragilité, puisqu'il n'est pas français. Il est toujours espagnol. La République lui a toujours refusé la naturalisation, ce qui est évidemment extrêmement choquant. Et donc, il sait très bien qu'il suffit d'un rien.
Je crois qu'il avait été classé comme anarchiste.
Il était classé comme anarchiste très jeune, puisqu'il était dans cette immigration catalane qui était effectivement anarchiste à 95% à Paris en 1900, et qu'il avait par ailleurs eu des ennuis. Alors on va peut-être pas revenir là-dessus, c'est très long, mais quand au moment du grand vol de la Joconde, et qu'un escroc qui se prétend être le voleur révèle, ce qui est ça était vrai, qu'il avait volé au Louvre deux statuettes ibériques pour Picasso à travers l'intermédiaire d'Apollinaire. Ça, c'était vrai. Et donc là, Picasso et Apollinaire avaient été convoqués à la police et ils s'en étaient sortis qu'in extremis en rendant les statuettes. Et Picasso avait eu la peur de sa vie. Il savait que là, il était expulsable du jour au lendemain.
Oui, Picasso
donc
avait
il le restait quand... pendant. Il ouais. le restait. Alors, il savait très bien que pendant l'occupation allemande, il était déjà le Picasso de Guernica, un homme connu internationalement. Qu'on ne pouvait pas, quand même, dont on ne pouvait pas se débarrasser comme ça. Mais il était fragile, les deux étaient fragiles.
Bon, on va faire une pause musicale. Je ne sais pas ce que Florence nous réserve en musique.
C'est une Sevillana de Joaquín Turina. Tout à l'heure, la musique datait de 1949. La Turina est mort en 1949. Et c'est interprété par Julian Brim. Et c'est une célébration à Andrés Segovia. Voilà, vous savez tout.
Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui, en présence de Claude Arnaud. Nous parlons de Picasso tout contre Cocteau, ça me paraît aux éditions Grasset. Alors c'est vrai, on sent que c'est un tandem mouvementé, hein, tous les deux. C'est comme le jeu de la balance, il y en a un qui est en haut, l'autre qui est en bas, et on se renvoie la balle volontiers. Il y a un épisode assez drôle d'ailleurs, je trouve, enfin assez qui montre bien leur rapport entre Cocteau et Picasso. C'est au moment où Cocteau va faire de la céramique. Avez-vous montré, alors vous dire, Cocteau ne manquant pas une seule des assiettes qu'il grave à la pointe, le test est jugé plus que concluant, mais alors qu'il s'est engagé à les peindre, Picasso se contente de demander à Madame Ramier d'ajouter au dos, d'après Picasso. Ça, c'est à Valoris, hein, je pense.
Ça va là, ah,
c'est drôle, en fait.
Oui, c'est drôle, parce que c'est un peu à résumer de toute la relation. C'est-à-dire, ouais. Tu veux devenir Picasso, je ne te l'autorise pas. Voilà, tu veux... Donc Picasso, s'adressant à Cocteau, dit, tu veux devenir comme moi, tu veux me prendre quelque chose, tu veux attraper un peu de mon feu central, je te laisse, mais je ne vais pas non plus t'accorder la possibilité d'être moi. Tu n'es pas moi, tu n'es pas Picasso, chacun continue sa route, voilà, et ne crois pas que je vais tout offrir. De toute façon, c'est toujours ça avec Picasso. C'est vraiment une économie à la dure. Hein. Je t'offrirai, que ce soit en amour, en amitié, je t'offrirai ce que je peux te donner pendant le moment où j'ai envie de te le donner, et puis après, tu dégages.
Enfin, Cocteau n'est pas dupe, il dit « Cet inventeur de femme n'a pas le moindre sens de la poésie ». Voilà ce qu'il dit au sujet.
Oui, alors ça commence les règlements de compte des années 50-60, voilà. Quand il commence à trouver que le prix à payer est quand même très lourd.
Ouais.
Et là, il commence à dézinguer Picasso. Et il y a des phrases qui sont féroces, mais qui sont souvent assez lucides. Et on sent qu'il y a une part de vérité dans ces critiques. Ouais.
Dans une autre critique de Cocteau, il existe rarement un vrai tableau de Picasso, il existe des périodes peintes.
C'est magnifique comme formule.
Ah oui. Et d'ailleurs, Genet d'ailleurs reprochera à Cocteau, vous dites, d'inventer les mots qu'il prête à Picasso et à lui-même pour mieux les qualifier d'admirables.
Bon, c'est tout un jeu de...
C'est l'époque,
voilà, et c'est l'époque. Et peut-être ce qu'on peut, je dirais, je suis pas du tout nostalgique par nature, mais ce qu'on peut quand même trouver magnifique dans ce moment-là de l'histoire de l'art, c'est que les échanges sont quand même extrêmement nombreux, constants. Il n'y a pas cet individualisme un peu radical d'aujourd'hui où chacun est dans sa niche, mène une compétition beaucoup plus polissée, beaucoup moins agressive, mais aussi beaucoup moins féconde et fructueuse parce qu'il y a beaucoup moins d'approches réelles, beaucoup moins de collaborations réelles.
Oui, là, c'est spontané. Je veux dire, vous dites, il a même offert à Coco Chanel la mode, c'est ce qui se démode. Ça, oui. C'est une formule, en fait, de Cocteau.
C'est une formule de Cocteau. Parce que ce monde-là a vécu ensemble dans les années 10-20. Ça, c'est vraiment un moment très gracieux, je trouve, de l'histoire de l'art.
Ah bah oui.
Danseurs, peintres, sculpteurs, musiciens, écrivains, poètes, tout ça collabore dans des ballets, dans des productions, dans des pièces musicales ou dans des collaborations style Picasso-Cocteau, de critique à plasticien. Donc il y a quand même, je dirais pas une forme de communisme, parce que c'est pas du tout égalitaire, mais il y a un communisme de fait.
Une communauté artistique.
Voilà, une communauté artistique réelle, c'est-à-dire qui vraiment est contente de se confronter, parfois façon féroce, où les rapports sont apparemment beaucoup plus durs, brutaux, les propos que les uns tiennent sur les autres sont d'une férocité qu'aujourd'hui personne ne supporterait, tout le monde mourrait.
Actuellement, il n'y a même plus de milieu littéraire comme il y avait dans ces années-là.
Voilà, il n'y a plus vraiment de milieu. Alors, il y a des maisons d'édition qui fédèrent des écrivains, mais ça ne crée pas un milieu au sens fécond, je dirais. Là, il y a un humus, et je dirais que Picasso et Cocteau sont conscients d'être un peu les derniers des Mohicans dans les années 60, début 60, quand ils se retrouvent encore, mais que tout le monde a vieilli, ça y est, on est dans un autre monde.
Alors moi, ce que j'ai bien aimé aussi, je vous l'ai dit en début d'émission, Claude Arnaud, c'est cette... On voit se dessiner les deux personnages, on voit leur tempérament quand ils sont jeunes, quand ils vieillissent, etc. Et cette ténacité de Cocteau est émouvante, je l'ai trouvée assez émouvante finalement. Après les tractations de rigueur, Picasso accepte de recevoir cet ami increvable qu'il a crevé 10 fois. Il est fidèle, Cocteau.
Il est fidèle, Cocteau est fidèle.
Il s'accroche.
Et puis, comme on le disait il y a 10 minutes, la vie est triste en Picasso. Donc, il y va aussi par plaisir, pas simplement...
Il s'amuse, il est là, il vit.
Il prend des coups, mais aussi c'est vivant. Quand il sort, il y a des phrases, je dis qu'il est amoureux de Picasso. C'est vrai qu'il sort de là, encore à la fin des 50, parfois il sort de l'atelier, il est ébloui, il dit c'est la vie, concentré, c'est plus vivant que la vie. Il y a quelque chose de...
Est-ce qu'il écrivait mieux quand il sortait de l'atelier de Picasso? Est-ce qu'il y avait un élan créateur de son côté
dans ses, oui, dans je pense que ça lui donne du courage. Oui. Je pense que Picasso lui donnait du courage. Et je pense que c'est vrai de tout créateur qui, à un moment donné, va voir un autre créateur qui endure, qui a le courage, parce qu'on traverse tous des périodes de découragement, de fatalisme, d'aquabonisme, bon, encore un livre.
C'est terrible, l'aquabonisme.
Encore un livre, encore un tableau, des livres, il en sort 500 par semaine, donc même nous, écrivains, on a peur d'entrer en librairie maintenant, parce qu'on en voit tout le temps, partout. Bon, mais Cocteau, dans ces cas-là, il allait voir Picasso et ça lui... Et Picasso y allait. Picasso ne se plaignait... Si, il ronchonnait...
Il ronchonnait le matin,
il se plaignait en disant « ma vie est une merde, ça vaut pas le coup », tout ça. Mais il allait au boulot.
C'est un homme d'action. La peinture est une action.
C'est un homme, c'est un faiseur, pas au sens péjoratif. C'est quelqu'un qui fabrique, c'est un façonneur. C'est ça, il pense avec les mains, il parle avec les mains. Donc il peut pas s'arrêter, il faut que les mains bougent, sinon c'est l'arthrite, c'est la mort, c'est...
Tout à fait. Alors, ce qu'avait dit François Gillot, aimer Picasso, c'est accepter ainsi d'être un jour d'être un jour son complément flatteur, le lendemain sa victime. Il t'aime, dit-elle à Cocteau, et il te déteste.
Oui, c'est
comme ça.
C'est comme ça.
Voilà, c'est l'ambivalence du personnage, mais finalement, ça fait aussi la richesse. Si on peut pas être.
Je pense qu'en tout cas, les gens étaient conscients très vite de ça. Évidemment qu'une une jeune fille qui serait arrivée de sa province sans rien savoir de Picasso, qui serait tombée dans ses raies, évidemment n'avait pas ce savoir-là. Mais en tout cas, les gens qui connaissaient un petit peu Picasso étaient prévenus de ça, de ce fonctionnement-là. Ils ne s'en cachaient pas du tout, hein. Au contraire.
Ouais. Et vous montrez alors aussi, pour Cocteau, c'est difficile parce que vous dites, quand il est revenu à Dieu après la mort de Radiguier, tout le monde s'était moqué de lui. Quand Stravinsky avait été retourné à son tour à la religion, à la Sainte-Russie, chacun s'était incliné. Donc il y a une sorte. Cocteau n'est jamais pris au sérieux, en fait. Et quand Picasso avait choisi d'adhérer au parti communiste, au sortir de l'occupation, tous avaient respecté son engagement. Ouais. Seul à n'avoir pas reçu d'enseignement officiel en matière d'art, au contraire du peintre et du musicien, Cocteau reste paradoxalement le seul à qui l'on conteste son modernisme, ses engagements et son génie.
Alors maintenant, ça va mieux quand même pour lui.
Ça va mieux, mais...
Ça va mieux. Disons que ça a été difficile. Ouais, ouais. Je me souviens quand en 2003, j'ai fait paraître ma grosse biographie chez Gallimard. Il y a eu en même temps l'exposition rétrospective au Centre Pompidou qui a eu un énorme succès et qui a fait redécouvrir Cocteau, surtout auprès de la jeune génération, qui ont vu cette espèce de
dandy. Il y a le cinéma aussi de Cocteau.
Dandy Warhol avant la lettre, qui était capable de faire des films, capable de faire de la sérigraphie. Et ça a beaucoup impressionné. Et donc, du coup, il a été remonté. Mais c'est vrai qu'il y a eu un discrédit sur Cocteau longtemps parce qu'il n'en imposait pas, parce qu'il ne faisait pas peur. Et là, ce que je montre aussi, c'est qu'il y a quand même aussi dans ces guerres, c'est des formes de guerre quand même, d'affirmation artistique, parce que ce que je veux dire, c'est que la création, elle vous coûte cher personnellement, mais en plus, c'est pas simplement de créer, ça ne suffit pas du tout de créer, il faut après imposer cette création.
Ouais, c'est ça.
L'imposer au centre de l'actualité, de l'attention, et donc ferrailler, batailler, et batailler de façon très dure parfois, et très cruelle. Donc Cocteau n'avait pas cette... Il pouvait être cruel en parole, il pouvait dire des choses très drôles et féroces, mais il n'était pas cruel dans les faits. C'est pas quelqu'un qui prenait plaisir à humilier, donc qui traitait avec un respect sans doute excessif n'importe quel, parfois même c'était des petits envoyés d'un journal de province. Cocteau était pour ça comme un prince charmant. Il ouvrait sa porte du Palais Royal et il accordait 3 heures d'interview à un garçon ou une fille qui avait 19 ans, qui venait du Courrier Picard ou je sais pas quelle publication catalane, et il parlait.
Il serait peut-être venu à Radio Libertaire.
Je pense qu'il serait très venu très volontiers à Radio Libertaire. Il aurait été très content. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'était pas démagogique, c'était vraiment...
Mais c'est sa nature.
C'est sa nature et il était touché de voir le petit jeune homme ou la petite jeune fille qui avait peut-être pas la culture, la formation, mais de lui donner sa chance.
Il aimait la jeunesse.
Il aimait la jeunesse et il aimait séduire, c'est clair. Mais donc, il y a tout ça réuni qui faisait... Mais du coup, il n'en imposait pas parce que le petit jeune homme ou la petite jeune fille, si jamais elle avait des idées contrastées sur lui, ressortait en disant « Oui, c'est pas grand-chose, quoi. »
Alors, à la fin, vous montrez aussi... Cocteau va se faire un lifting en 63. Il a peur de la vieillesse, Cocteau. Peut-être plus que de la... Peut-être plus que de la mort, on ne sait pas. Il n'y a pas de risque que Jean ne prendrait pour boire une gorgée à la fontaine de Jouvence. Ça, je pense que c'est Picasso.
Picasso qui dit ça.
Qu'il avait bien cerné. Donc, il a peur du vieillissement et ce lifting va mal tourner, si j'ai bien compris.
Ce lifting tourne très mal parce qu'il doit, il doit arrêter de prendre des anticoagulants et que, du coup, ça provoque...
ça a provoqué sa mort.
Un accident cardiaque, ça provoque la mort, ouais.
C'est... Alors... Pour en ce qui concerne la mort, Picasso, vous dites, sa crainte de la mort l'empêchera jusqu'au bout de rédiger un testament et d'assister aux enterrements de ses amis. Lui aussi, mais lui, c'est plutôt le vieillissement. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est plutôt lui, voilà.
La terreur, c'est la maladie et la mort. Ouais. Et c'est vraiment la maladie et la mort. C'est vraiment la chose qu'il redoute plus que tout. Et tout le système de superstition démente à la fin, est fait pour le protéger contre la maladie et la mort.
Et pour Cocteau, vous dites, le poème, c'est James Lord note aussi que le poète veillait à s'éloigner de tous ceux qui risquaient en tombant de l'entraîner dans leur chute. Donc toujours ce côté superstitieux.
Il y a une superstition aussi du côté de Cocteau. Vous voyez, quant à l'échec, à une forme d'échec, il fait très attention et il a peur quand même de la contamination par l'échec.
Ouais. Vous dites que ses ailes d'ange n'étaient pas que protectrices, ça lui permettait aussi de fuir une réalité devenue trop pesante. Picasso, après la mort de Cocteau, comment il a réagi à la mort de Cocteau, Picasso ?
Alors, comme toujours, il refuse la plupart des interviews. Il envoie son fils à la cérémonie proprement dite, à Milly-la-Forêt, où Cocteau est enterré. Mais lui-même va à un hommage à la chapelle de Villefranche que Cocteau a peinte, en espérant désespérément toujours que Picasso viendrait la voir. Et il fait acte de présence. Il montre qu'il est là. Et puis on sait que quand même il le dit des dernières années, mais finalement il n'y a plus que Cocteau et moi, quoi. Il n'y a plus que lui, quoi. C'est son dernier.
Il ne sera pas remplacé, Cocteau,
non,
finalement.
Non, ils sont tous morts l'un après l'autre, les Braque, les Matisse, toute leur génération est morte. Picasso est vraiment pratiquement le dernier survivant, et Cocteau était celui d'avant. Donc ça lui a fait quand même quelque chose, lui qui avait vraiment phobique des enterrements, ne veut pas y aller, ne veut pas entendre parler de ça. On sent quand même à l'intérieur, ça a fait quelque chose, oui, ça a fait quelque chose, mais bon, pas au point de lui faire prendre la tête du convoi.
Oui, oui, enfin c'est une autre force physique.
C'est une autre façon, mais c'est une autre façon de... Mais c'est vrai que si on regarde, il ne lui a pas... Je pense qu'il a admiré Cocteau, je pense qu'il a reconnu à Cocteau des profondes qualités, et il lui disait, tu es meilleur dessinateur que je ne suis poète. Et il était capable de lui faire des vrais compliments. En même temps, il ne l'a pas gâté, voilà. Cocteau n'a pas été couvert de tableaux, contrairement à Éluard, qui en a reçu pas mal. Il y a une certaine réserve aussi. On sent que Picasso toujours a maintenu une certaine réserve. Il n'y a pas cette admiration brute qu'il a pu manifester à Radiguet, je dirais. Le portrait de Radiguet par Picasso est admirable.
Oui, très bien.
Les portraits de Cocteau par Picasso ne sont pas à ce niveau-là, je dirais.
Bon, il reste quand même leur amitié.
L'amitié qui est quand même quelque chose.
Qui est quelque chose, Claude Arnaud. Moi, je vous remercie beaucoup pour ce voyage au pays de Cocteau et de Picasso. C'est bien
C'est moi qui vous remercie.
Alors, j'en profite pour faire une annonce. Donc, il y a une exposition à Barbizon, Picasso, 50 ans déjà. Une exposition donc jusqu'au 12 juin à Barbizon, à l'espace culturel Marc Jacquet. Une exposition qui a été conçue par Jean-Michel Goudverner, qui est un amateur d'art, qui a été galeriste, qui est un homme très, très cultivé, qui connaît vraiment bien l'art. Et Jacques Simonin, qui est commissaire d'exposition. Et tous deux ont réussi à faire cette... c'est une création aussi. C'est une création, c'est un hommage par des artistes contemporains. Alors vous trouvez des œuvres donc en hommage à Picasso de Hervé Di Rosa, Guyomard, Philippe Cognier, Charles-Élie Couture aussi. Vous pouvez, Catherine Lopez-Curval. Il y a aussi deux toiles de Yo Marchand, dont une toile en hommage aux yeux de Picasso. Vous avez des toiles aussi de Jérôme Ménager, que certains connaissent. Enfin, vraiment, c'est... et Jacques Villéglé, qui est très connu, je pense, de nos auditeurs. Il y a Ben aussi, etc. Donc, c'est jusqu'au 12 juin à Barbizon, Picasso, 50 ans déjà, à l'espace culturel Marc Jacquet. Donc, allez-y, c'est une exposition gratuite. Et puis, c'est des artistes contemporains. C'est très, très important. c'est important de soutenir l'art vivant. Être contemporain de ses contemporains, Claude Arnault, je pense que c'est...
Je suis d'accord, il faut...
Alors là, la photo de votre, qui est mise en bandeau de votre livre, on en a parlé, on voit Picasso donner la béquée à Cocteau. C'est vous qui avez choisi ou c'est votre éditeur?
C'est une photo de l'article. J'avais proposé deux documents à mon éditeur, cette photo de Jacques Lartigue qui est très belle, hein, on voit vraiment quelque chose d'intime, chaleureux. Et puis un petit montage que j'avais fait moi-même, où on voyait... une photo de Picasso avec sa fameuse mirada fuerte, ce qui veut dire en espagnol ce regard, regard qui tue pratiquement, avec ses prunelles noires terribles de taureau. Et en face, Cocteau, dans son dernier film, Le Testament d'Orphée, qui s'affuble Dieu. Vous savez, ces yeux de la fortune qu'on trouve dans tout le bassin méditerranéen, qui sont censés, qui sont en émail peint bleu, mais qui lui donnent qui étaient censés lui donner dans son esprit romanesque une puissance aussi de regard digne de celle de Picasso. Mais mon éditeur a préféré ça. Je pense qu'il a eu raison. C'est plus chaleureux, c'est plus vivant.
On peut vous retrouver à Arcachon, d'après ce que j'ai compris.
Je serai ce dimanche à 17h à Andernos-les-Bains, sur le bassin d'Arcachon, où il y a deux journées de rencontres littéraires, et donc je présenterai le livre à 17h dimanche. Donc si les auditeurs sont dans la région, je serai content de les...
Voilà. On peut voir aussi sur le site des éditions Grasset toutes vos signatures.
Oui, absolument. J'ai un site moi-même à mon nom,
claude-arnault.com,
où tout est signalé.
Bon, merci à vous, Claude Arnault.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à Flo Descailloux pour cet accompagnement. Vous voyez, on a toujours besoin d'être accompagné en musique et à la technique, puisque comme nous sommes des intellos comme ça, qui ne pensons pas toujours à la technique. Mmh. Et j'encourage tous nos... Alors, donc, il y aura un podcast de l'émission sur le site de Radio Libertaire. J'encourage nos auditeurs à écouter le podcast. J'encourage à aller en librairie, à lire Picasso tout contre Cocteau de Claude Arnault, qui vient de paraître aux éditions Grasset, et aussi à lire vos autres livres. Moi, j'avais beaucoup aimé votre biographie sur Cocteau. Et puis, si je comprends bien, on va avoir droit à un roman prochainement.
Un gros machin.
Bon.
Il est bien avancé.
J'ai hâte de découvrir ça. À très bientôt et merci à vous tous.
Alors, pour terminer, un chercheur, un grand chercheur de la guitare qu'apprécie notre invité, c'est Jean-François Pauvros avec Marc Sanders à la batterie. Et cet extrait du livre paru chez Nato du double CD livre Buenaventura Durruti, et ça s'appelle Memorias del Olvido. Jean-François Pauvros. Thank you.
j'entends.